cette prorogation, votre contre, groupe mixte d'opposition, pour les raisons suivantes. Vu les différentes sommes investies depuis 2004, à savoir fin 2011, 880 000 euros par la ville de Lourdes, donc les contribuables, j'y reviendrai, également l'emprunt de la CEPA de 450 000 euros en juin 2007, de 900 000 euros en août 2010, et le dernier de 450 000 euros en 2012. A noter que si ces emprunts sont contractés par la CEPA, c'est la ville de Lourdes qui garantit à 80%. Donc plus de 3 millions d'euros investis pour aujourd'hui 3 maisons. Je pense que le bilan est maigre, et loin d'être ce que vous espériez, mais cela joue à l'urbanisme. Donc pour nous, je suis désolé, aujourd'hui, c'est un échec. Je dirais même qu'on va dans le mur, mais bon, c'est un peu long. Et je répète donc que nous, groupe municipal d'opposition, nous votons contre cette approbation.
C'est clair.
Voilà. Michel Rigoulot veut répondre.
Je vais juste répondre sur pas mal d'imprécisions. Premièrement, la ville de Lourdes n'a pas investi 3 millions. La ville de Lourdes a investi, participe à hauteur de 880 000 euros sur cette affaire. Ce qui est, je pense, raisonnable pour donner la chance et la possibilité à des Lourdes de rester sur leur territoire. Deuxièmement, sur le nombre des 3 maisons, je ne rentrerai pas sur la polémique, puisque j'ai signé déjà 6 PC et il y a 6 maisons qui sont en construction et non pas 3 maisons. Je répondrai juste sur l'essai de crise. Sur le plan de l'Union nationale, 30% de moins de foncier et 30% de recul, ne serait-ce que sur l'année 2012. 12 à 13% sur l'année 2011. À l'heure actuelle, 3 200 000 chômeurs et une situation de crise jamais vue jusqu'à présent qui n'encourage pas justement les gens à rentrer dans le foncier et à se lancer dans cette aventure. Je crois que ce que nous vivons à l'heure actuelle sur la ville de Lourdes est quelque chose qui devrait peut-être inquiéter l'ensemble des Lourdes, parce que l'ensemble des Lourdes est concerné. Quand les populations diminuent, c'est l'économie locale qui diminue, c'est le travail local qui diminue, et c'est toute la ville de Lourdes qui en souffre. À l'heure actuelle, moi je suis en pragmatique et en concertation avec le maire de la ville de Lourdes, nous avons décidé de faire un bond en avant sur cette zone de Lourdes,
vous offrez
cette zone notamment de faire la mesure. Nous avons des réunions de concertation ce vendredi, puisque je reçois la CEPA, et nous avons une réunion ce vendredi avec toute la CEPA pour voir justement quand quelque chose ne marche pas. Moi je ne suis pas de ceux qui vont dans la nuit. Quand quelque chose ne marche pas, il faut chercher les raisons, améliorer et donner d'autres possibilités peut-être pour donner un autre avenir à cette ZAC. Je ne rentrerai pas moi dans les polémiques diverses qui ont fait que ça a rendu un échec quelque chose qui pouvait être une réussite. N'oublions pas qu'à un moment donné, avec la loi, il faut que je le rappelle, mais la TVA sur les constructions était à 5%, et non pas au taux où elles sont revenues sur le taux normal. N'oublions pas non plus que sur cette époque-là, et avec les procès que nous avons subis, nous étions aussi sur les participations des communautés qui pouvaient s'élever à 3-4 000 euros et aider les gens sur les frais de long terme. Tout ça, c'est du passé avec des jeunes qui ont tout fait pour nous mettre des bâtonnets, ou avec des jeunes qui ont tout fait pour monter les uns sur les contre les autres. Je rappellerai juste que sur cette affaire, dans tout l'ensemble de la zone E, il n'y a eu qu'une seule expropriation. Tout le reste s'est fait à l'amiable. Et aujourd'hui, à ce jour, je rappelle qu'il y a des jeunes qui sont inquiets de voir que ça ralentit parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que vous nous achetez les terrains dans les zones et ainsi de suite. Comme l'on dit à l'heure actuelle, on rejoint justement. Ça vous fait rire, vous êtes pas innocent, mais dans le fait, je continue. Justement, nous prorogeons justement cette DUP, ce qui nous permettra de faire en bonne conscience et d'avancer et d'avoir quand même cette vision d'espoir de continuer cette OSA que nous allons certainement renouer de notre lot.
Franchement, je suis très étonné, je suis même déçu. Je suis déçu que le progressiste, je veux viennent comme progressistes,
ça pas que
ça soit mais c'est la aussi dedans, soit contre un projet d'habitat populaire et social, ce qui montre, à mon avis, je parle à M. Garot, ce qui montre à M. Garot qu'il faut quand même dépasser un certain nombre de, comment dire, de prises d'opinion. Parce que ce que nous jouons là, au regard de la zone d'encadre, zone intermédiaire entre l'Europe et l'Urbaine, c'est simplement de pouvoir proposer à l'Aube ce que nombre de villages ruraux proposent depuis un certain nombre d'années. Donc, à l'heure actuelle, dans le cadre d'une intercommunalité qui se construit et qui continue à se construire tout le temps du monde, l'offre lourdaise en matière d'habitat populaire, parce que ce n'est pas Beverly Hills, c'est pas, d'accord, doit être consolidée. Et vous devez, je le regrette, avoir une vision peut-être un peu plus prospective et plus large de ces problèmes. Deuxièmement, je vais m'arrêter, qu'est-ce que 900 000 euros d'emprunt ou de débours sur la zone d'enclade, cher M. Garot, par rapport aux 24 millions d'euros d'engagement de la ville de Lourdes sur deux bailleurs sociaux. Les objectifs sont les mêmes, il n'y a pas de politique ici, il y a simplement la réalité, comme le disait Michel. Si vous voulez que cette ville continue à attirer les gens, si vous voulez que cette ville continue notamment à donner de l'habitat pour les jeunes, il faut, c'est une proposition que je ne comprends pas, aller de l'avant. Et cette proposition d'enclade, elle doit être soutenue. Et je m'étonne sur les deux chiffres que je viens de mettre en exergue, 900 000 euros d'un côté, 24 millions d'euros d'engagement et de cautionnement d'emprunt sur lesquels vous ne rechignez jamais, malgré les conditions d'habitat qui tendent à se dégrader très fortement en matière d'habitat social sur l'Aube, d'accord ? En matière de vacances, des chiffres que jamais l'Office n'a atteint dans le passé récent et dans le passé lointain, voilà les engagements que nous prenons. Alors, 900 000 euros d'un côté, 24 millions d'euros de l'autre, et se priver d'un base d'expansion urbanistique tel qu'en cas de M. Garot, je pense que vous commettez une faute.
Je vous répondrai rapidement. Je ne me réjouis pas de l'échec.
Il n'y a pas d'échec.
Oh. Aujourd'hui, c'est un échec. 2004-2013, devant, on a trois maisons qui ont émergé. Donc, je ne me réjouis pas de l'échec.
Il n'y a pas.
Contrairement à ce que vous dites.
Il y a 6 maisons en construction, il y aura 3 maisons, c'est 6 maisons qui sont en construction, plus des dossiers en étude, 6 maisons dont les PC sont construits et qui sont en construction. Donc il faut persister sur les 3 maisons. Ensuite, un point important, c'est qu'une collectivité ne vit qu'avec des contribuables. Il faut aussi que, quand on est élu de Lourdes, ne pas perdre cela de la tête.
Ok.
Juste une remarque, M. Garot avait dit qu'il n'était pas contre le fait de créer une zone de ce type, mais on peut se poser la question de l'approche conceptuelle de la zone, du phénomène d'attractivité qu'elle représente, puisque vous dites en même temps qu'il faut, il faut des impôts sur la commune de Lourdes, donc il faut qu'elle se repeuple. Or, on est en baisse, donc on peut se poser la question d'un côté comme de l'autre, en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener et rendre attractive cette zone que d'ailleurs, M. l'adjoint à l'urbanisme, vous allez requalifier ou renommer pour aborder un nouveau virage, une nouvelle dynamique susceptible peut-être de créer l'effet boom, malgré le fait quand même que ce n'est pas la faute forcément aujourd'hui, vous parlez de TVA, oui, d'accord, bon, oui, d'accord, mais bon. C'est 9 ans quand même. C'est 9 ans. Et ce que M. Garot vous dit, c'est qu'il faut se poser peut-être les bonnes questions. Sans être polémique à outrance, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi elle n'est pas attractive? Alors, j'espère que le social, les petits collectifs, moi, j'en ai fait mon deuil, hein, je vois pas. Et je voudrais poser une question il y a 6 mois concernant les résidences seniors. Et quand je vois le bilan, j'espère qu'on finira pas par une résidence senior. Vous m'aviez dit à l'époque, non, il n'y aura pas de résidence senior. Parce que la résidence senior, c'est d'ailleurs qu'il faut la faire. Qu'on fait, vous savez où. Mon avis.
Juste quelques précisions, ça va être en cause qu'il y a des difficultés et que c'est un procédé très long. 2004, c'est la signature et le lancement de cette opération. À la suite, l'élaboration, bien entendu, de la conception, etc. De cette. Ensuite, il y a eu le temps de phase de concertation.
Oui.
On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu la concertation, puisque la concertation a duré 3 ans, cette affaire. Et malheureusement, pour éviter justement de rentrer dans des situations conflictuelles, d'expropriation, etc. Et malheureusement, on est tombé, rogné sur quelque chose qui n'a plus été possible, on a dû passer à l'expropriation, ce qui nous a fait perdre 2 ans et demi en procès. Donc, je veux, par là, pas nier le fait de la difficulté, mais je veux expliquer le pourquoi de cette opération qui est l'autre. Franchement, j'ai regardé sur toutes les villes qui étaient à peu près de même taille, l'élaboration du ZAC a toujours été, je crois, l'élaboration du ZAC a toujours été de longue haleine un peu partout. Peut-être pas aussi longue, mais beaucoup n'ont pas eu des procès à digérer de 2 ans et demi. Donc, c'est ce qui explique justement dessus. Mais je rejoins votre idée. Je suis sûr que c'est pour ça que je suis persuadé que dans les mois et les années qui viendront, on se battra tous ensemble pour que ce projet aboutisse. Parce qu'il faut travailler à l'amélioration de ce projet. C'est ce que nous faisons. On travaille. Parce qu'on est alerte justement du fait que les oiseaux qui restent sur la planche ne vont pas monter le grain à eau.
Juste une dernière remarque. Il y a en France d'autres endroits où sont pratiquées ce genre de démarches avec des succès différents. Alors, on va vous faire grâce du mot échec peut-être. On va plutôt parler d'enlisement, en espérant qu'une nouvelle dynamique vienne rapidement pour aller dans votre sens.
Merci, monsieur Valli, monsieur Azan.
Mais je voudrais juste, tout à l'heure, Alain Garon disait que vous votiez contre, c'est ça ?
Contre quoi ?
Contre la prorogation.
Contre la prorogation. Oui. C'est-à-dire, en fait, d'après ce que dit monsieur Lamitte, vous ne seriez pas contre le fait que cette réussite soit réelle sur la ZAC, mais vous votez contre la prorogation qui permet de la faire. C'est-à-dire que si on n'a plus de DUP, on ne peut pas la faire. Parce que, en fait, la délibération ne porte que sur la DUP. C'est une délibération qui porte sur la prorogation d'une possibilité de pouvoir le faire. Et là-dessus, vous dites, nous, on voudrait bien le faire, mais on vote contre.
Bien, cette précision étant donnée, s'il n'y a pas d'autres questions, M. Mignolès.
Moi, je suis surpris, encore une fois, d'écouter toutes ces excuses et puis cette autosatisfaction. Pouvez-vous être satisfait ? Je veux dire, depuis que vous êtes aux commandes, le nombre d'habitants n'a pas cessé de baisser. Donc vous avez raison, M. Révolo, quand vous voyez le nombre d'habitants qui s'effondre, c'est catastrophique. Sauf que c'était une période économique forte. Vous dites, M. le maire, cette ville continue à attirer des gens, il faut que la dynamique se prolonge. Mais est-ce que c'était en fermant l'hôpital que vous vouliez réussir cela ? Avec des centaines d'emplois qui seraient partis et l'économie avec ? Et en n'aidant pas le boulevard, où il y a des gens qui essayent de se substituer à vous, mais je ne partage pas ça du tout. Votre dynamique économique est inexistante, je suis désolé. Et quand on met 9 ans à faire un projet, dans le bâtiment devant, c'est... Vous avez le temps ? Ça vous ennuie que je parle ? Pourtant, moi, je vous écoute. Hein.
Je dis à monsieur, ce cher monsieur S, de ne pas s'énerver.
Non, donc, je comprendrais qu'il y ait des problèmes de santé.
Donc, monsieur S demande simplement que le règlement soit appliqué.
Bon, arrêtez.
Monsieur Mignolès a terminé.
Il y a bonjour avec
plein d'autres interventions.
Merci. Donc, ce que je veux signaler, c'est que 9 ans pour ce type de projet, c'est trop long. Bien sûr que c'est trop long. Dans le bâtiment, en 9 années, surtout aujourd'hui, vous constatez que tout se révolutionne. On est dans le développement durable, il se crée des briques nouvelles, etc., qui maintenant, au niveau des énergies, on est dans quelque chose de complètement différent. Donc votre projet, maintenant, il est obsolète, je suis désolé de le dire, mais il est obsolète. Et ça, c'est parce que vous auriez fait le projet dans un délai normal, vous ne seriez pas tombé, comme vous l'aurez dit, M. Rebolo, dans la phase de crise. C'est malheureusement à vous qu'il faut retourner la balle.
Avant de laisser terminer l'invasion, peut-être qu'une déclaration à faire démographique. Peut-être qu'une des meilleures façons de consolider la population à Lourdes, c'est d'y habiter. Monsieur Azou.
S'il y a les infrastructures que vous aurez construites, ce sera avec plaisir, monsieur
Azou a la parole.
Simplement pour dire qu'il ne faut pas hésiter à regarder les chiffres de l'INSEE. à bien prendre ces chiffres, à les bien regarder pour s'apercevoir que si la ville de Lourdes, sur les 30 dernières années, a connu deux périodes successives de baisse démographique, qui sont d'ailleurs les mêmes que pour les villes moyennes de même dimension partout en France, depuis les derniers recensements enregistrés, la ville de Lourdes n'a pas connu de baisse de population. Elle a connu une phase de recroissance et une phase de stabilité, mais elle n'a pas perdu de population depuis ces événements-là. Donc il faut regarder le site de l'INSEE.
Le mauvais élève a toujours des excuses de base, monsieur Azon.
Toujours. Voilà. Vous êtes dans les excuses.
Monsieur Supercaz a une question.
Même plusieurs. Monsieur Révolo, on va parler donc effectivement de cette ZAC d'enclave. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'effectivement il y avait bien 6 permis de construire qui étaient en cours ou qui avaient été distribués. Je voudrais que vous me caractérisiez ce que vous appelez un commerce de proximité. Qu'est-ce que pour vous un commerce de proximité?
Je vais vous dire, le commerce de proximité, c'est par exemple la boulangerie qui est en train de se construire.
Alors expliquez-moi comment ça se fait qu'un des 6, dans les 6 permis de construire, un, donc il n'y a que 5 maisons plus un, qui était réservé à un commerce de proximité dans la ZAC d'enclave, ce soit un ostéopathe. Est-ce que vous estimez qu'un ostéopathe est un commerce de proximité, monsieur Révolo?
Monsieur Subercaz, vous me désolez.
Oui.
Vous faites partie de la commission urbanisme.
Je le sais.
La commission urbanisme, il y a plusieurs lots qui sont réservés à des espaces et des commerces de proximité pour donner la possibilité à des gens qui veulent faire ou s'installer géographiquement sur cette ZAC avec un commerce de proximité de le faire. Vous ne voulez pas que l'interdise à quelqu'un qui achète un lot commercial d'ouvrir un cabinet d'ostéopathe.
Peut-être qu'il va nous donner peut-être. Oui. On va peut-être trouver le journal à lire effectivement dans la salle d'attente avant de se faire soigner. C'est du proximité. Où en est-on, s'il vous plaît, donc, avec aujourd'hui le jugement donc avec la personne qui vous a mis au tribunal? Où en est-on aujourd'hui? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est toujours en cours? Enfin, où en est-on?
Le jugement, je crois que la CEPA est toujours en cours, puisque c'est notre représentant.
Vous croyez?
Ils sont toujours en cours là-dessus, qu'ils ont contesté le jugement qui avait été fait par justement une histoire de jurisprudence. Donc, moi je vous avouerai que dans cette affaire, j'ai tellement essayé de jouer par la concertation, j'ai tellement essayé de jouer par le dialogue, qu'à un moment donné, je laisse faire notre aménageur qui est quand même destiné et qui a cette délégation qui est payée pour.
Donc vous croyez, on est donc pas au courant que vous avez perdu en cassation. D'accord. Depuis le mois de mars, donc, la cassation a dit que il n'y a pas de cassation, vous avez raison de le dire. La cassation a dit qu'elle ne revoterait pas, il faut donc aller à l'appel, reprendre le jugement d'appel, donc vous avez perdu, donc vous allez devoir payer 30 ans.
Parce que vous n'énervez
pas.
Un peu de droit, un peu de droit.
Un peu de sérieux.
Alors j'en étais sûr.
Avec un peu de sérieux.
Est-ce qu'il est arrivé de sortir cette chose?
Non, mais vous ne m'avez pas répondu. Alors, on n'est pas en cassation, on est en cours. Qu'est-ce qui se passe? Alors, effectivement, aujourd'hui.
Vous avez dit on est en appel, ça va bien. Une autre question, monsieur.
Non, on ne va pas en cassation, on ne va pas en appel, on ne fait pas du ping-pong, on ne fait pas du tennis. Où c'est qu'on allait aujourd'hui ici? Avez-vous perdu ou gagné? Où en est-on?
On va gagner.
Nous allons gagner, puisque je vous ai dit qu'il y avait eu une jurisprudence qui était présentée à l'heure actuelle par notre aménageur qui est payé pour poursuivre cette affaire. Par rapport à ça, nous allons gagner.
D'accord. Alors, on revient donc sur la ZAC d'enclave avec un commerce de proximité qui est un ostéopathe, avec 5 donc, permis de construire qui ont été distribués. Où en est-on des maisons de ville? Parce que je crois que...
Attendez, monsieur Schumacher. 6, parce que l'ostéopathe va ouvrir un cabinet, mais qu'il va y vivre aussi. Alors,
c'est bien 6. 6 sur 330 familles qui attendaient. Pardon, excusez-moi. Oui, je parle un peu fort. Je vais revenir sérieux. Excusez-moi.
On prend la parole, on donne la parole, tout va bien.
Je peux le reprendre? Oh, merci, c'est très beau, j'arrête. Je crois même que certaines de chez vous sont venues y habiter. Bon, enfin bref. Donc, prenez-on avec les maisons de ville. Donc, il y a 22 maisons de ville qui sont en attente. Où en est-on, monsieur Révolo? Est-ce que des gens sont très intéressés pour acheter des maisons de ville dans la ZAC d'enclave? Je parle calmement.
Je répète, et ça se résonne profondément. Je viens de dire que nous avions décidé, avec le maire, de faire une autre étape et de prendre une nouvelle voie et de remettre une autre dynamique là-dessus. Si je vous dis ça, c'est bien entendu que nous laissons l'option des maisons de ville et nous réfléchissons à autre chose. Je vous ai précisé que j'avais une réunion ce vendredi avec la CEPA, notre aménageur, en compagnie du maire et bien entendu de tout le service urbanisme, afin de dire quelle était notre volonté de modification de ce logiciel et donc de laisser faire. Mais quand je vous dis que malheureusement nous sommes dans une crise et que malheureusement les gens ne se bousculent pas là-dessus, c'est valable pour la parcelle où les maisons sont dites sur terrain libre de construction, et c'est valable aussi pour les maisons de ville. Il ne m'appartient pas aujourd'hui de faire les déclarations publiques avant que nous ayons pris les décisions, les décisions bien entendu avec notre aménageur, les décisions aussi avec l'aménageur, avec le promoteur qui était sur l'affaire, parce que je crois qu'il faut un respect quelque part. On ne prend pas les gens, on ne les jette pas à la porte comme ça. On discute, mais il s'avère que je crois que le promoteur à l'heure actuelle est dans une grande difficulté parce que n'oublions pas que c'est les maisons en VFA, mais ça vous l'avez compris. Et comme ce sont des maisons en VFA, quand le promoteur doit investir 2 200 000 de sa poche pour lancer le projet et qu'il n'est pas sûr à l'heure actuelle que ce projet ira à la fin, il ne veut pas s'y risquer. Nous sommes en train, comme le rappelait le maire tout à l'heure, de porter suffisamment de cautions pour les gens de l'office public sans aller porter caution à les gens de l'office privé.
Oui, on reste sur les maisons de ville. Alors, d'après les renseignements qu'on n'avait pas, donc ils n'attaquent pas les travaux pour les 17 maisons. C'est ça. Oui, c'est bien ça. Donc, pour résumer, on en est là. Est-ce que vous savez aujourd'hui combien de personnes seraient intéressées sur les 17 qui devaient se faire? Combien de personnes seraient intéressées?
Je n'ai pas à vous le dire. Dans la situation, il faut avoir un peu de décence vis-à-vis du promoteur qui a tout fait pour maintenir le projet. Je crois que s'il y avait des déclarations à faire dans ce sens, ça serait à lui à les faire et ce n'est pas à moi de remuer le couteau de rappeler. Je dirais que le promoteur dans cette affaire a fait beaucoup d'efforts, il a fait des plaquettes, il a fait distribuer, etc. Si le succès n'a pas été là, pour les maisons quand même, je le rappelle ici, qui allaient sur les trams dans le bas du niveau de 142 000 euros et dans le niveau un peu plus élevé à 165 000 euros, c'était pas, il me semblait, de 140 000 pour l'accession sur des parcelles de 350 mètres carrés avec des maisons toutes finies de 90 mètres carrés avec des garages. Il pouvait espérer, mais il tombe dans une mauvaise panade. De même que beaucoup de promoteurs sur les Hautes-Pyrénées, vous êtes face à l'ignorer que tous les promoteurs à l'heure actuelle sont dans la difficulté. Absolument tous, pas un seul tire sur les fins du jeu à l'heure actuelle.
Les gars, non, je ne vais pas terminer. Oui, on continue, on continue.
J'allais vous le dire.
De Charette. C'est un très beau, très joli village, monsieur le maire. On ne vous y pas souvent. C'est peut-être un peu rural.
Moi, j'habite à Londres.
Oui, c'est un peu trop rural. Oh, on vous a vu à Gazo, c'était.
Oui.
Très bien. Mais je pense que vous accompagnerez monsieur Révolo pour la campagne des cantonales. Donc, on vous verra dans le rural accompagner monsieur Révolo.
Je l'espère. Très heureux.
Oui, c'est hors sujet.
Je répète, moi, j'habite à Londres. Alors,
je vais
poser la dernière question.
Voilà. Alors, je pose la question. Donc, ces maisons de ville, vous l'avez dit, moi, depuis le début, vous me vendez que ce sont des maisons en basse consommation. Et lors de la commission.
Monsieur Subertin, si vous permettez, maintenant, on va redevenir sérieux 2 secondes, parce que vous voulez complètement analyser la chose avec du détail, du détail.
Oui, ah ben bien sûr.
Et je vais vous dire.
Ah non, c'est le détail qui compte.
Je suis un marathonnier. Alors maintenant, je vais vous rappeler un peu au règlement.
Attendez, je suis le
merci.
BBC, moi je pense que
le débat est suffisant.
Non, c'est facile.
Vous posez une ou deux questions, monsieur Subertat, et puis je pense qu'on aura fait le tour et vous aussi de la question.
Alors, BBC, rapidement, BBC, moi je pensais que c'était maison BBC. Monsieur Rebolo, vous m'avez dit, on a un problème. Le permis de construire donc, pour ces 22 maisons va arriver à échéance en juillet. Donc, on m'avait dit, mais c'est pas grave, on va le remettre. Sauf que depuis le 1er janvier 2013, toutes les nouvelles constructions sont obligatoirement BBC. Donc, vous m'avez dit, eh bien, le promoteur va devoir en faire un devis, puisqu'il y a une plus-value de 10%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les maisons vont coûter 10% plus cher. Alors, déjà qu'on n'arrive pas à les vendre maintenant, oh, je ne sais pas comment vous allez faire avec 10%, avec un surplus de 10%. C'est quand même important ce que je dis, c'est les détails.
Je crois que vous avez dû regarder les émissions du management chaté. Et à un moment donné, à force de faire les émulants, je tournais en rond, mais ça a fait tout le monde. Bon, alors, moi je ne vais pas faire donc, je vais vous résumer. Encore une fois, vous n'avez rien saisi aux discussions. Dans les rares fois où vous êtes venu à la commission, encore une fois, vous n'avez rien compris. Je vous ai dit que ces maisons-là, ces maisons de ville, étaient des BC, des basses consommations. Et que la nouvelle réglementation RT 2012 allait faire dans l'obligation de mettre une plus-value avec des panneaux solaires, avec des isolations de toiture renforcées, avec des chauffe-eau solaires, des ceci, qui allait augmenter et qui allait faire passer 10% de plus. Je ne reviens pas là-dessus. Ce qui était valable avant le RT 2012, ce qui était valable avant janvier, n'est plus valable à l'heure actuelle. Après, rentrer dans les spécifications techniques, moi ça me dérange nullement. Vous venez jamais dans les explications techniques, peut-être que ça va prendre trop de temps de venir.
Vous avez vu quand même que je suis au courant, quand même, pour quelqu'un qui ne
va pas. Rentrer dans les spécifications techniques, personne ne comprend rien.
C'est pour ça que je n'ai pas.
Parce qu'il faudrait sortir les décrets, expliquer justement les délais de mise en œuvre, bien que ça s'appelle le réseau, etc. Je vous. Soulevez pas avec cette question.
Non.
Merci.
La dernière question. Je finirai juste pour dire que nous avions parlé avec vous, monsieur Rebolo. Avec monsieur Rebolo, nous avions discuté d'autres endroits, pas très loin d'ici, à côté de Nailles, et pour vous citer le village, c'était à Bénéjac, qu'un lotissement de plus de 15 lots, à des prix qui sont beaucoup plus supérieurs à la ZAC d'Anclade, avait été vendu en une semaine. Donc, vous m'avez dit, mais c'est pas pareil, M. Subercaz. Ah, Bénéjac, il y a Turbo Mika. Et donc, il y a du boulot là-bas. Donc, les gens viennent et ils construisent. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous n'êtes pas attractif, c'est tout. La ZAC d'Anclade est un échec parce que vous n'êtes pas attractif et qu'il va falloir recréer de l'économie dans cette ville et faire revenir des gens parce qu'il y a 900 saisonniers qui sont sur le carreau cette année en début de saison. Qu'avez-vous fait pour la promotion de Lourdes ? Aucune promotion.
Je finis, je trouve lamentable que l'élu qui se prétend élu lourdes accable de telle manière un projet qui donne l'occasion à des lourdes de rester sur leur territoire.